Bonjour et bienvenue sur Secrets Judoka, le podcast 100% judo pour ceux qui ont envie de progresser et qui aiment partager. Je suis Pascaline Magne, passionnée de judo et je fais mon maximum pour appliquer un principe cher à Jigoro Kano, l'utilisation optimale de mon énergie. Comment s'entraîner pour que ce soit efficace? Quelle méthode, quelle approche, quel exercice permettent d'avoir des résultats plus rapidement, voire peut-être plus facilement? J'observe tout ce que je peux pour trouver des réponses et surtout, je pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, c'est une interview. J'ai tendu mon micro à une personne qui a beaucoup de choses à partager. Salut Laurent.
Bonjour Pascaline.
Et ben, grand merci d'avoir libéré ta matinée pour faire cette interview qui, à l'origine, vient de ce livre, Gagne. Voilà,
exactement.
Que j'ai eu la chance de recevoir au Paris Grand Slam où on s'est rencontrés. Tu me l'as même dédicacé. Je me suis un peu jetée dessus parce que moi, je suis une grande fan de prépa mentale, pas que pour le judo d'ailleurs. Si on le prend en sens très large, dans ma vie en général, je trouve que c'est de réfléchir à, tu le dis très bien en intro d'ailleurs, de réfléchir à qui l'on est. Bah, ça fait évoluer dans plein de domaines. Donc j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans le détail parce que je suis convaincue que pour progresser au judo, ce qui est toujours le sujet que j'aborde, la tête, ça compte. Et juste avant de rentrer, j'ai plein de questions, surtout que j'ai pratiqué tes exercices. Juste avant de rentrer dans le détail de ce sujet, mais est-ce que tu veux bien te présenter? Je sais que tu es judoka, préparateur mental, mais je ne sais pas non plus, je n'ai pas tant de détails que ça sur ta vie, alors vas-y.
Ben avec plaisir Pascaline, encore merci pour l'accueil. Alors, je suis Laurent Mézégué, j'ai 45 ans, 3 enfants, et j'ai un parcours plutôt éclectique, où le dénominateur commun, c'est l'humain. J'ai été travailleur social, j'ai été policier dans le 12e arrondissement de Paris. Je suis élu depuis maintenant une quinzaine d'années dans la ville de Sartrouville dans le 78.
Okay.
En parallèle de tout ceci, j'étais athlète donc en judo. Hein, j'ai fait quelques années à m'entraîner donc en région parisienne, dans le club de Sartrouville, le club de Thiers d'ailleurs au tout début quand je suis arrivé. Parce que je suis originaire de Marseille, je le précise aussi.
On l'entend à ton petit accent.
Voilà, ça chante encore un peu. Et donc, parcours éclectique, parce que j'étais aussi entraîneur derrière, après mon passage de ma vie d'athlète. Et également, depuis maintenant 12 ans, donc je suis cofondateur de l'entreprise Eclevia, qui est un organisme de formation spécialisé en performance managériale, impulsé par la préparation mentale. Et en fait, on travaille dans 3 sphères, le sport, l'entreprise et la politique, principalement l'entreprise aujourd'hui, avec un gros pôle, bien sûr, quand même, sur le sport, parce que c'est l'ADN de l'entreprise et c'est mon ADN à moi.
Voilà. Okay. Et du coup, ouais, j'ai vu que, enfin, moi, dans le livre, effectivement, tu cites beaucoup les exemples de sportifs. Et donc, c'est tout sport, si on met la partie entreprise à côté, c'est tout sport confondu, dont des judokas.
Alors, effectivement, dans le livre, on voit beaucoup de judokas qui apparaissent. C'est ma signature, d'une certaine manière, étant donné mon parcours et aussi les affinités à la base, puisque les personnes qui savaient que je faisais de la préparation mentale m'ont sollicité en premier. En même temps, je me suis ouvert vraiment au football aussi, au tir à la carabine, à la lutte, au kickboxing, au karting. Donc, beaucoup d'autres sports dans lesquels je me suis engagé et où j'ai pu vivre de belles aventures aux côtés de super athlètes.
Ok, super. Bah, alors, parlons-en. Moi, si tu veux bien, j'ai 2-3 questions déjà d'ordre général. Je suis sûre qu'ils vont intéresser aussi ceux qui découvrent un peu la prépa mentale. Donc, mes 3 grandes questions. La toute première, elle est toute simple. Est-ce que on fait de la prépa mentale uniquement quand on a un objectif clair et précis de performance, ou est-ce que quand on est loisir passionné au club, ça peut être intéressant? À quel moment les gens viennent te contacter et qu'est-ce que tu recommandes?
Alors, la préparation mentale, pour rappel, c'est un entraînement des habiletés mentales.
Ouais.
Donc, à savoir définir un objectif, savoir bien se concentrer, donc travailler sa concentration, être capable vraiment d'être focus sur quelque chose quand on le souhaite, quelle que soit la difficulté. C'est un travail sur les émotions, sur l'état d'esprit, savoir s'activer, se désactiver. Donc, il y a beaucoup de thématiques à l'intérieur de la préparation mentale. Donc, effectivement, on peut avoir envie d'utiliser la préparation mentale quand on a un objectif précis, ambitieux.
Oui.
Toutefois, on peut avoir des objectifs de comportement, de vouloir prendre du plaisir alors qu'on en prend peut-être pas assez parce que dans sa pratique, on se comporte d'une certaine manière. On aimerait avoir un nouveau comportement pour se faire plus plaisir, par exemple. C'est possible aussi. Donc aujourd'hui, on n'est pas que dans une démarche de haut niveau, de performance, de haute compétition. On peut être tout simplement dans une démarche d'amélioration au niveau que l'on souhaite.
D'accord. Ok, super. Ma deuxième question d'ordre général, c'est est-ce qu'il y a un âge? Parce que moi, c'est une vraie question que je me pose. Hein. Parfois, les adolescents, c'est pas pareil que les adultes. Un enfant, est-ce que ce serait pertinent? Tu vois, comment tu vois ça? Est-ce qu'un ado qui est en pôle, c'est déjà le bon moment? Est-ce qu'on fait les mêmes choses? Au niveau de l'âge, ça se passe comment? Ouais.
Alors, effectivement, la maturité est à prendre en compte.
Ouais.
On sait très bien que chez les tout-petits, l'objectif à long terme ne parle pas trop, ou
oui,
un
c'est
peu
vrai.
moins. On est plus sur des objectifs à court terme. Chez l'ado et le jeune adulte ou l'adulte, l'objectif à long terme est essentiel dans le fait de se projeter. D'ailleurs, on sait très bien que les personnes qui réussissent plus facilement, en général, sont des personnes qui imagent, qui visualisent leur objectif à long terme, ce qui permet de tracer le chemin, de savoir vraiment où on va assez naturellement, même sans parler de préparation mentale. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si on souhaite accompagner des très jeunes, très très jeunes, c'est possible, étant donné ce qui est proposé comme outil, on peut faire acquérir un certain état d'esprit, c'est-à-dire transformer les obstacles en opportunités, ne serait-ce en ayant une lecture du monde positive, savoir respirer, savoir gérer ses émotions, on peut le faire à tout âge.
Ouais, c'est
Donc
vrai.
Ça, c'est des outils qui font partie de la préparation mentale. Par contre, ça se fera accompagner. Et pas forcément dans un but de performance, mais simplement de connaissance de soi et d'appréhension, on va dire, de la vie de la meilleure façon possible. Donc, on peut piquer des outils comme ça pour les plus petits. Après, chez les ados, c'est possible. Toujours, bien sûr, avec un accompagnement. Pourquoi? Parce qu'en termes de maturité, les exercices qui sont proposés, notamment dans le livre que j'ai écrit, demandent une réflexion assez profonde. Et parfois, d'avoir quelqu'un qui vous challenge, qui pousse un peu plus loin la réflexion, c'est intéressant. Après, un adolescent qui a vraiment envie de s'impliquer peut le faire, très clairement. Et ça va jusqu'à tous les âges, bien évidemment, hein, parce que je sais même qu'à l'entreprise, à l'époque, je faisais des formations se préparer mentalement à la retraite.
Ah oui.
Donc,
mais cela dit, c'est vrai qu'il y
aurait,
je pense qu'il y a un vrai besoin là-dessus aussi, ouais.
Bien sûr. Donc, la préparation mentale pour tous, entre guillemets, oui, c'est quelque chose qui est faisable et que je recommande, mais pas forcément dans une dynamique toujours de surperformance.
Ouais.
On n'est pas que là-dedans.
Ouais, je comprends bien. Pas forcément dans une dynamique de programme avec un objectif, etc. Mais ça peut être aussi un environnement, comme tu l'as très bien dit, un état d'esprit.
Bien sûr.
On se prépare à ça, ok, top. Et puis, ma dernière question que j'avais concrètement de manière générale, c'était du coup, comme tu l'as dit, enfin, on le voit bien dans le livre, hein, c'est vrai que les exercices, tu viens de le dire, des fois, on est un peu challengé, ça vient questionner des choses sur notre vie, notre passé, nos motivations internes, etc. Est-ce que ça t'est arrivé, j'imagine peut-être, est-ce qu'on peut se retrouver confronté à des problématiques qui ne relèvent plus de la prépa mentale, des blocages qui font qu'on a beau faire tous les exercices qu'on veut, soit on a le phénomène qui revient toujours au même, soit ça passe pas, et si oui, comment on fait? Peut-être que les exercices peuvent de toute façon arriver au bout de ça.
Bien sûr.
Voilà, comment, si ça t'est arrivé, comment tu gères? Est-ce qu'il faut se compléter par un psy ou autre chose, ou je ne sais quoi, voilà.
Bien sûr. Alors, la préparation mentale en soi, au vu du nombre d'exercices qui est proposé dans cette sphère-là, il y a la possibilité d'avancer, de résoudre un certain nombre de problématiques.
Ouais.
Quand je dis de problématiques, c'est-à-dire on a un axe de progrès bien ciblé et on va mettre le paquet pour progresser.
Ouais.
Maintenant, c'est vrai que si dans les échanges, il y a des comportements, des réflexions qui vont mener à avoir une réflexion plus profonde. Par exemple, c'est des exemples qui arrivent régulièrement, hein, des problèmes relationnels avec la famille qui datent d'un certain nombre d'années. Des comportements qui n'étaient pas adaptés plus jeunes, l'anorexie ou d'autres choses comme ça, qui viennent, qui ressortent, qui n'ont pas été traités par un spécialiste. Moi-même, ce que je propose donc à l'athlète, c'est aussi d'aller consulter quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Ça peut être un psychologue ou un autre spécialiste bien précis par rapport à sa problématique, tout en continuant à l'accompagner, mais qui puisse avoir l'encadrement adapté, les professionnels adaptés autour de lui, parce que le rôle du préparateur mental est de travailler les habiletés mentales, même s'il y en a une grosse partie de travail sur la connaissance de soi, on va gratter en profondeur, on va faire de l'introspection, mais cette introspection, aujourd'hui, le préparateur mental a vocation à faire prendre conscience d'un certain nombre d'éléments pour qu'il y ait une cohérence entre ce que la personne est et ce qu'elle veut faire. Après, s'il y a d'autres problématiques plus profondes, c'est à d'autres spécialistes de prendre le relais. Et c'est ce que je fais quand c'est le cas. C'est-à-dire, je vais mettre en contact la personne ou je l'invite vraiment à faire ses recherches si elle veut chercher par elle-même.
D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à la limite, parfois, on peut rentrer par la porte d'entrée prépa mentale, on veut faire son objectif. Puis, en travaillant, on creuse, puis on arrive à voir qu'en fait, il y a des trucs profonds qui remontent, puis c'est l'occasion de les lever, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant, ouais. Et du coup, je fais un petit peu la transition maintenant avec ton livre, mais tu commences, l'un des premiers chapitres, c'est sur les objectifs. Mm-hmm. Moi, ça m'a posé la question de savoir, voilà, t'as un petit peu répondu, mais quand même, est-ce que, par exemple, là, si j'ai pas d'objectif précis pour 2024, est-ce que c'est on peut se lancer dans de la prépa mentale sans objectif précis, ou c'est quand même mieux de vraiment toujours l'adosser à un objectif, quitte à ce que ce soit l'entraînement, j'ai envie d'être plus décontracté, c'est ce que tu as dit. Hein,
bien sûr. Des...
Voilà, est-ce que c'est mieux de l'adosser quand même à un objectif précis?
Alors, je dirais spontanément que oui. Mais en vérité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce qui est écrit dans ce livre, en fait, ce n'est pas simplement une préparation mentale, c'est un modèle de performance.
Okay.
Donc, c'est-à-dire que toutes les étapes qui sont proposées garantissent une implication totale de la personne,
ouais.
Et donc de donner tout ce qu'elle a dans les outils. Et je rappelle que ce livre est un contenant,
ouais.
Et que le contenu, c'est la personne.
C'est nous.
D'accord.
Ouais.
Ça me fait toujours penser, on va dire, ce livre est le reflet de l'approche que j'ai toujours eue. Et je me suis toujours calé sur la citation de Benjamin Disraeli qui est « Le plus grand bien qu'on peut faire à l'autre n'est pas de lui partager notre richesse, mais bien de lui révéler la sienne. »
Tu l'as cité dedans, ça va bien.
Et ça, c'est quelque chose qui me porte depuis toujours pour laisser une place importante à l'autre là-dedans, parce que c'est sa place, c'est son projet, c'est son histoire.
C'est son parcours, ouais.
Voilà. Donc, à partir de là, tout ce travail qui doit être fait, on peut puiser donc dans la méthode certains outils, même si on n'a pas d'objectif. On peut se dire, moi j'ai envie de bien gérer mes émotions, mais sans objectif particulier. Mais au fond, il y en a toujours un. Si en fait vous voulez par exemple gérer vos émotions, c'est qu'au fond de vous, vous dites, ah là, je pourrais améliorer ça. Mmh. Si j'ai un centre d'intérêt, en principe, c'est qu'il y a une motivation vers quelque chose. Mmh. Après, l'objectif en soi, je veux arriver là-bas avec
tel jour,
grande détermination, etc. Bon, c'est bien, hein, c'est ce que je propose dans le livre. Mais si vous voulez picorer pour progresser et travailler certains axes, vous pouvez aussi le faire. Ce livre, qui est très structuré d'une certaine manière, offre aussi une certaine liberté.
Ouais.
C'est ce qui est sympathique, je trouve, dans la lecture du livre, parce que ça permet vraiment à tous ceux qui veulent d'abord le lire en diagonale, on va dire, pour se sentir inspiré, sentir aussi si ça leur correspond, si ils ont envie de s'engager, pour après faire une lecture avec l'application derrière de tous les outils.
Ouais. Et toi, justement, dans ton expérience sur tous ces outils, pour chaque athlète, globalement, on va dire, tu les appliques tous, ou est-ce qu'en fait, ça a vraiment dépendu de chaque athlète, ou certains, par exemple, ils n'en ont eu que trois du livre, mais parce que c'était exactement les trois qu'il leur fallait. Comment t'as géré ça?
Alors, c'est une question aussi de timing.
Ok.
En fonction des objectifs, vous avez une personne qui arrive qui me dit dans 4 mois, on a tel objectif, c'est vraiment important, il faut qu'on avance. Je ne vais pas éliminer tous les outils, bien évidemment, mais j'ai une sorte de colonne vertébrale où il y a certains exercices qui sont incontournables.
Okay.
Par exemple, la détermination de l'objectif, qu'on soit très clair dessus, essentiel. Ensuite, c'est ce travail sur le pourquoi.
Ouais.
Donc, la motivation profonde, trouver la motivation profonde pour savoir pourquoi cette personne veut s'engager à ce point. Derrière, c'est créer la maxime, qui est un outil phare du livre.
Elle est géniale, ce chapitre, un de mes préférés. Ouais.
Mais tant mieux, parce que c'est la spécificité de la méthode aussi, c'est sa singularité, c'est-à-dire de créer un fil conducteur, un garde-fou qui vous permet de garder le cap comportementalement parlant en direction de son objectif. Et ensuite, bien sûr, c'est travailler un élément sur l'état d'esprit, à savoir le gagnant-gagnant, qui permet de s'engager dans le présent, 100% de ses qualités dans l'action, et bien sûr, l'ancrage émotionnel.
Ouais.
Qui permet d'avoir...
C'était tes points forts, on va dire.
Exactement. Ouais. Donc, ces points forts, en gros, si je les résume, c'est on sait où on va, on sait pourquoi on y va, on a un fil conducteur et un garde-fou pour garder le cap en termes de comportement, et notre esprit, par la maxime, et le corps, par l'ancrage émotionnel, va nous faire avancer vers notre cible de la manière la plus cohérente et la plus efficace possible.
Ouais. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai adoré dans la maxime, c'est un peu une autre forme, mais en dépolarisation, on le fait beaucoup. Parce que moi, pour moi, c'est la façon aussi, entre guillemets, de se détacher du résultat. Je dis entre guillemets parce que ça ne veut pas dire que le résultat ne compte plus, qu'on fait ça juste comme ça. Mais néanmoins, ça donne son focus et son attention, effectivement, sur un comportement, une valeur profonde, plutôt que sur un résultat dont, en fait, parfois, en judo, on a toujours une dimension d'inconnu. On ne sait pas sur qui on va tomber, donc on ne peut pas tout maîtriser. Donc ça, j'ai adoré. Mais du coup, ça me renvoie à cette question, motivation intrinsèque, extrinsèque peut-être. Je ne sais pas comment on dit, extrinsèque.
Extrinsèque et intrinsèque.
Ouais. Et est-ce que tu penses que du coup, il y a entre guillemets des mauvaises motivations? Quelqu'un qui arriverait, un ado par exemple, et même un adulte, qui arrive clairement avec des motivations extrinsèques après une séance de travail, c'est clairement pour autre chose que sa valeur profonde. Est-ce que c'est pas mal de travailler pour retrouver quelque chose en soi, ou est-ce que on assume, on y va et ça peut être une motivation comme une autre?
Alors, moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça. Déjà, je me suis toujours gardé de cela parce que la motivation des personnes est toujours très personnelle. Dans le livre, au-delà de la motivation profonde, j'ai fait un travail sur, on va dire, toutes les théories de la motivation qui existent.
Ouais.
Et j'ai ressorti un certain nombre de questions très simples qui permettent de voir vraiment ce qui nous anime. Et souvent, il y a plusieurs éléments qui nous animent. Il n'y en a pas un seul. Il y en a peut-être un qui est plus important que les autres, certainement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Bon. Il y en a certains vont prendre beaucoup de plaisir à pratiquer de manière très saine se régalent dans la direction de leur objectif et ça se passe très bien. D'autres ont des objectifs qui n'ont strictement rien à voir avec la pratique, peut-être pour montrer à ses parents
qu'ils
sont maltraités, de montrer qu'en fait ils sont quelqu'un et montrer leur valeur d'une certaine manière. Ça arrive beaucoup, hein, des situations comme celle-ci. Moi, je pars d'un principe très simple, c'est que j'accueille la personne comme elle est au début.
Ouais.
On va avancer avec ses attributs, ses ressources, son histoire, son éducation. Et si ça suffit pour avancer, souvent, la guérison, elle se fait aussi par la réalisation.
D'accord. OK.
Si, par contre, effectivement, on se rend compte que c'est quelque chose qui amène des mauvaises réactions, des mauvais comportements, doucement, doucement, il y a des exercices sur la vision de soi, sur l'amour de soi, sur l'estime de soi en général, qui vont doucement, doucement faire en sorte que la tête va se rééquilibrer dans le temps. Parce que une personne à 18 ans n'est pas la même à 25 ans.
Ouais, c'est clair.
Prenez l'exemple de Kylian Leblouc, par exemple.
Qu'on a eu en interview. Voilà. Hein.
Exactement. Kylian a évolué entre la première année et la sixième année. C'est pas le même, ses motivations ne sont pas les mêmes. Il est dans une recherche à la fin de plaisir, une recherche de s'approprier complètement son histoire, quoi, d'une certaine manière, mais dans tous les cas, très équilibré, très engagé, très cohérent dans son ensemble. Au début, c'est pas qu'il n'était pas cohérent, au contraire, il a toujours été cohérent, mais il y avait ce côté, je veux à tout prix prouver.
Ce qui est plus, là, je joue beaucoup aussi là-dessus.
La maturité y joue, bien évidemment. Bien sûr. Et au fur et à mesure, les valeurs évoluent aussi. Hein. On dit souvent qu'un système de valeurs, c'est quelque chose d'important, bien évidemment, mais on n'a pas toujours les mêmes valeurs, ou du moins exactement à la même place hiérarchiquement en parlant, entre nos plus jeunes âges et quelques années plus tard, parce que l'histoire est passée par là.
Ouais. Et là, tu parles d'une évolution à travers les années, qui effectivement me parle, mais est-ce que, si par exemple, je définis mon objectif pour la fin de saison, et au fil de la saison, à travers les exercices, là, du coup, ça vaut le coup de temps en temps. Enfin, ça t'est arrivé, par exemple, de voir que la motivation, même au fil d'une même saison pour un même objectif, en fait, évolue et change par les exercices qu'on fait par la suite. Tu vois, on évolue soi-même et du coup, on retrouve que finalement notre motivation, ce n'est pas exactement ça. Tu repasses un peu là-dessus au cours de la...
Bien sûr, bien sûr. Cette question est capitale. En fait, je l'explique en quelques lignes à peine dans le livre, mais en fait, le moment où on détermine l'objectif, eh bien, et la fin de la préparation mentale que je propose, avec la septième étape où on va valider le travail qu'on a fait et on va ancrer ce travail par la projection, il y a un certain nombre de temps qui se passent.
Ben oui, c'est ça.
Bon. Si vous avez commencé l'objectif dès le début, c'est-à-dire que vous êtes engagé déjà dans le chemin, bon, effectivement, vous allez au fil de l'eau, on va dire, vous adapter. Mais si vous faites la préparation mentale, on va dire, en avant, avant de démarrer vraiment la direction vers l'objectif, vous allez vous rendre compte que la méthode, elle est faite de la manière suivante, c'est-à-dire que vous déterminez l'objectif dans un premier temps, mais quand vous travaillez cette connaissance de soi, en fait, automatiquement, vous allez peut-être retravailler votre objectif derrière, parce que vous allez vous dire, ben, finalement, ces ressources-là, je les ai déjà, donc pourquoi je me donne cet objectif dans un an, je peux le faire en fait dès le mois prochain.
Ouais, c'est ça, voilà, je me dis, c'est mouvant.
Ou le contraire, finalement, là aujourd'hui, au vu de ce qui ressort de ce travail sur la connaissance de moi, je ne suis pas prêt pour dire que dans 2 mois, je peux réaliser ceci, donc je vais me donner un an.
Ouais.
Et donc, ces ajustements sont essentiels. D'ailleurs, il y a un exercice qui est bien précis dans le livre qui le fait travailler. Et c'est pareil pour la suite des outils.
Ouais.
C'est-à-dire que vous pouvez même avoir des personnes qui vont se rendre compte que ce n'est pas, en fait, un objectif qui compte pour eux.
Ouais.
On peut avoir des personnes qui décident d'arrêter.
Ça t'est arrivé, ça ?
C'est déjà arrivé.
Ouais.
Les gens qu'ils s'engagent se disent, ben, finalement, c'est simple, c'est intéressant, mais j'ai pas vraiment
c'est
envie,
pas là
c'est pas si important pour moi. Ils mettent pas vraiment une cohérence à s'engager de cette manière, donc vont prendre le projet dans un angle beaucoup plus je dirais pas relâché, parce que c'est toujours bien d'être relâché, même en préparation mentale, on est censé être relâché, mais dans tous les cas, sans y donner une importance particulière, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas si important pour eux. Et ça, c'est une réalité de terrain qui s'est imposée à moi dans mes accompagnements de temps à autre. Mais en tous les cas, tout au long de la technique, on a la possibilité, enfin, du modèle de performance, on a la possibilité de revenir à l'objectif et de l'affiner, le réajuster, le changer, ou complètement dire, ben, ça me, c'est pas intéressant que j'y aille pour diverses raisons.
Ouais. Ce qui est d'ailleurs, enfin, je vois en dépolarisation, c'est pareil, ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Mais en fait, c'est hyper satisfaisant pour la personne parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle courait après un truc qui était pas ce qui lui correspondait parfaitement. Et du coup, elle va aller s'éclater dans une dimension un peu différente. Enfin, donc, c'est vrai que c'est.
Bien sûr. C'est perturbant parfois au début. Oui. Pour l'athlète.
Ouais.
Même pour le préparateur mental, d'une certaine manière, parce que c'est engageant quand même de dire à quelqu'un, enfin, quand on arrive à un résultat, que la personne vous dit, bah, finalement, j'ai pas envie d'y aller. Bon, on peut se poser la question aussi de bien davantage encore faire réfléchir la personne, parce que c'est pas anodin dans une histoire.
Oui, selon là où on en est, oui. Et du coup, tu disais, oui, que tout ça arrive à travers les différents exercices qu'on fait. Moi, justement, j'avais une question, c'est que, est-ce qu'il y a plusieurs exercices, notamment, je vais pas tous les citer, mais par exemple, des exercices de visualisation, ou par exemple, l'ancrage. On va ressentir une émotion qu'on a envie de pouvoir appeler un peu quand on a envie, par exemple, être déterminé, être agressif, etc. Et pour ça, tu le dis, c'est pas juste en 5 minutes que ça va se faire, il faut le travailler, il faut répéter l'exercice plusieurs fois, plusieurs jours pour qu'on puisse après s'en servir. Et ça, des exercices, il y en a beaucoup. Est-ce que du coup, tu les fais faire les uns après les autres, ou est-ce que je peux faire, par exemple, l'exercice de l'ancrage matin, midi, soir, et puis 10h, 16h, 22h, je fais un autre exercice qui demande aussi de la répétition, parce qu'il y en a plusieurs. Mmh. Comment ça...
Alors, ce qui est bien dans la pratique de ces outils, c'est que c'est assez libre en termes d'organisation. Par contre, il y a des prescriptions.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que quand on finit une séance, bah, tu vas avoir, par exemple, 50 répétitions d'ancrage à faire par jour.
Ouais, bon. C'est beaucoup, ça.
Mais après, oui, c'est beaucoup, mais à un moment, on dit souvent objectif exceptionnel, exceptionnelle.
Ouais.
Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut vraiment modifier un comportement, si on veut vraiment s'engager pleinement dans quelque chose, et qu'on a un timing aussi qui est une horloge qui tourne, il faut travailler.
Oui.
Donc ça, c'est inévitable. Et je répète d'ailleurs, c'est important de le mentionner, c'est que j'aime bien répéter cette citation des Grecs, enfin qui venait des Grecs, c'est « mille actes de vertu créent la vertu ».
Oui.
Et il est clair que si on veut acquérir une valeur, quelque chose de fort, la répétition est obligatoire.
Oui.
L'équation pour moi parfaite, c'est motivation, répétition, environnement. On doit avoir l'environnement, on doit être motivé, mais on doit répéter.
Comme les outils commis. C'est des outils commis mentaux.
Exactement.
Il n'y a pas de choix.
et donc, oui, ça coûte de l'énergie. Oui, ça coûte du temps. Mais c'est nécessaire. Alors, sur l'organisation de la journée, quand il y a plusieurs outils qui ont été travaillés, en fait, c'est un management, on va dire, libre. Vous pouvez en faire un peu le matin. Vous pouvez, si vous préférez faire l'ancrage le matin, parce que vous dites, j'aime bien le
charbon. Je me sens bien,
Je fais l'ancrage le matin et je peux faire mes maximes le midi.
D'accord. Donc, on peut faire plusieurs dans
les...
On peut même
découper. J'ai 25 ans, je peux faire 25 le matin, 25 le soir.
D'accord.
Ce qui est important, c'est la qualité. C'est-à-dire que j'ai des athlètes, par exemple, qui le faisaient, certains, mais qui le faisaient à la va-vite.
Oui.
Hein,
sans
c'est pas
être
précis.
Émotionnellement engagés.
Exactement. Ouais, ou pas suffisamment. Oui. Donc, si ils ne sont pas assez engagés, c'est comme le chikomi mal répété.
Oui, voilà. Ou qu'on pense complètement à autre chose et que du coup, on fait les choses à moitié.
Voilà. Donc, c'est une question d'engagement. Des répétitions, il y en a un certain nombre, mais c'est pas non plus extraordinaire parce que les athlètes en général de haut niveau ou pas de haut niveau d'ailleurs ont des vies à côté, une organisation, des familles, un boulot. Donc il faut qu'ils arrivent à caler tout ça.
Ouais.
Dans tous les cas, je trouve que pour le résultat que ça peut donner,
ça vaut le coup.
Ça vaut le coup et c'est pas tant que ça.
Ouais. Voilà. Et justement, par rapport à le fait d'être impliqué dans son exercice, alors moi, j'ai une grande question, c'est que tout ce qui est visualisation, moi, j'en fais beaucoup à titre perso, mais je n'ai jamais réussi à faire de la visualisation associée. Je suis toujours dissociée et j'ai déjà, là, en relisant encore ça, je me dis, bon, je vais vraiment réessayer. J'ai cru lire une demi-phrase qui semblait dire que ce n'était pas très grave si on n'avait qu'un des deux. Tu confirmes? Du coup, si on fait que du dissocié, est-ce que c'est un peu regrettable ou quand même continuer à chercher à avoir de l'associé ou c'est pas trop grave?
Je pense
et
comme,
juste avant, excuse-moi, est-ce que pour les auditeurs comme qui ne connaîtraient pas, tu peux juste rappeler ce que c'est dissocier, associer?
Oui, tout à fait.
Ouais, merci.
Alors, la visualisation dans son ensemble, c'est le fait de se projeter mentalement et de voir, par exemple, son objectif, de voir un parcours, de se voir réussir, par exemple, son objectif. Bon. On peut le voir de deux manières, de manière dissociée, c'est-à-dire qu'on se voit de l'extérieur, comme si on voyait un film, voilà. Et donc, on est le spectateur de son histoire.
Ouais.
L'associé, on est l'acteur principal, donc on voit aussi, mais à l'intérieur. Et en même
fait,
temps,
on voit ce que je vois là maintenant.
Exactement. On voit et on sent, puisqu'on y est. Quand je dis on sent, on ressent, donc ça peut être odeur, ça peut être toucher, ça peut être la sensation intérieure. Et donc, tout ceci fait l'associé. Donc, par rapport à ta question, je le dis dans le livre, pourquoi ? Parce que par expérience, il y en a certains qui vont me dire, de toute façon, j'y vois flou. Je suis pas à l'aise avec. Et c'est vrai, pas tout le monde a. Alors tout le monde pense à l'image, on dit,
oui.
Parce que c'est normal de pouvoir penser à l'image. Si je te dis éléphant rose ou voiture bleue,
j'y pense.
Voilà,
ouais.
Il y a une image qui va sortir. Toutefois, quand il y a un objectif de visualisation, de voir des images, il y en a certains qui sont plus en difficulté que d'autres.
Mm.
Bon, l'entraînement, bien évidemment, sert à progresser dans ce sens-là. Et c'est pourquoi, dans le cadre d'une préparation mentale, dans le réel. J'ai pas toujours le temps, d'ailleurs, de faire une formation spéciale à la visualisation. Donc, la vérité, c'est quoi ? C'est que je vais voir les préférences de la personne, la rassurer sur le fait que si elle sait le faire qu'un dissocié ou qu'un associé, que c'est pas très grave. D'une part, c'est vrai parce que les spécificités de ces deux visualisations, c'est vrai que la dissocier, donc de l'extérieur, quand on est spectateur, ça nous permet d'avoir une vision macro, techniquement d'ajuster. On pourrait même d'ailleurs dire, si on visualise une technique, par exemple,
ouais.
qu'on veut améliorer, on peut se voir au ralenti,
ouais.
on peut se voir de manière faire la technique rapidement, on peut la voir sous divers angles,
ouais.
regarder que les pieds, que les hanches, que le haut du corps.
Ouais, complètement.
Le déséquilibre. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, ça permet de créer le plan, finalement, l'architecture de tout ça. Après, un associé, il y a ce côté, je l'engramme, c'est-à-dire je l'ancre au fond de moi, je sens cette sensation. Bon. Si, dans le cadre de la visualisation, on ne le sent pas forcément, je pense que personne n'est dénué d'émotion. Donc, il y a toujours quand même une sensation qui est là, peut-être pas de manière très précise, très fine, ou du moins perçue comme ça par la personne qui le fait, mais en tous les cas, il y a toujours un travail émotionnel, puisque même quelqu'un, de toute façon, qui fait de la visualisation extérieure, va avoir de toute façon des émotions. Et des émotions de spectateur, bien évidemment. Pas de ressenti forcément de la technique, quoique.
Bah moi, j'allais dire, mais en fait, ça. Moi, je suis mixte. Alors, en t'écoutant, je dis, mais non, mais en fait, moi, quand je fais mes visualisations, c'est sûr et certain, dans l'image, j'arrive pas à voir ce que je verrai, je me vois moi. Mais par contre, mon ressenti, il est à 4000%. Des fois, je me retrouve à stresser comme une malade. Enfin, j'arrive vraiment à ressentir.
Bien.
Donc, du coup, c'est mixte, en fait, alors.
C'est très bien. Je dirais que oui. La seule différence, c'est est-ce que le degré d'implication émotionnelle est vraiment ciblé sur la technique travaillée, si on travaille une
ouais.
technique, ou simplement c'est un ressenti émotionnel de spectateur.
D'accord.
Mais en général, les neurones miroirs font que si tu vois quelque chose, il y a une sorte de reproduction qui se crée. Quand tu regardes un film, par exemple, tu vas être pris par ce qui se passe aussi.
Ce que peut ressentir le personnage principal.
Voilà.
Ouais.
Après, ce n'est pas tout à fait le même travail, mais le ressenti peut être là.
Mais alors, ça veut dire que dans la visualisation dissociée, que tu préconises, par exemple, pour visualiser son parcours vers l'objectif, ou le jour J, par exemple, ça peut apporter quelque chose de ressentir ce que ressentirait un spectateur.
Bah, du moins, je ne le recherche pas forcément,
ouais.
très clairement, mais je sais
possible.
Je sais par expérience qu'il y en a qui me disent je ressens de l'émotion quand même, parce que quand je me vois, bah, ça
ouais.
crée quelque chose. Donc très bien, il faut laisser le corps parler. Ce qui est bien aussi dans cette visualisation, en mode spectateur, c'est qu'on peut travailler un petit peu comme dans la communication de crise, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, là, ça peut réagir comme ceci, et j'adopte cette technique, enfin, du moins, cette façon de rentrer. Là, il y a ce cas-là, là, je fais comme ça. Ou même, par exemple, là, ça bloque un peu, parce qu'en visualisation, c'est pas toujours fluide.
Ouais.
Parfois, on a un blocage, et on n'arrive pas non plus en visualisation.
Ouais, exactement.
Et donc, on a le droit, du coup, de revenir en arrière, ajuster, hein, mettre un zoom, et derrière,
ouais.
boum, je vais faire la technique. Si
on
parle
alors...
de judo, mais on peut parler de n'importe quel sport.
Mais... Ah oui, mais du coup, tu me fais la transition parfaite, parce que pour finir sur ce bloc visualisation, c'était ma dernière question, c'est que je trouve qu'en judo, en tout cas quand on n'est pas au niveau comme notre équipe de France qui commence à bien connaître leurs adversaires, mais bon, ils peuvent toujours tomber sur des inconnus, qu'on n'a pas non plus les moyens de visualiser des vidéos à l'avance, bah, 9 fois sur 10, en fait, on tombe sur des gens qu'on ne connaît pas. Comment on se visualise pendant le combat, sachant qu'on a cet inconnu en face et qu'en plus le judo, c'est pas l'athlétisme, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup d'inconnus, même quelqu'un qu'on connaît, il y a beaucoup d'éléments inconnus dans le combat.
Bien sûr.
Donc, comment on visualise ça?
Alors, ce qui est important, c'est de se dire effectivement que ça ne se passe pas toujours comme on l'a prévu.
Ouais.
Loin de là, quel que soit le niveau d'ailleurs, que ce soit un niveau débutant, intermédiaire ou de très haut niveau, ça ne se passe pas comme prévu. Toutefois, effectivement, dans le haut niveau, si je prends cet exemple-là, il y a des adversaires qui ont des schémas, on va dire,
ouais,
technico-tactiques, des morphologies spécifiques, et on peut se préparer parce qu'on a constaté qu'on avait quelques difficultés, peut-être pour rentrer une technique.
Ouais, ou sur un gaucher.
Voilà.
Ou...
Donc, okay, il peut y avoir, effectivement, des objectifs précis de travail dans ce cadre-là, qui vont fonctionner, bien sûr, parce que ça va apporter des solutions en plus. Mais ce n'est pas forcément la solution parce que la personne qui est en face de vous, elle ne fait pas la sieste pendant deux mois, le temps de revenir combattre
voilà,
contre vous. Donc, elle a refait un travail, peut-être sur vous spécifiquement.
Ouais, en plus.
Donc, il faut garder cette capacité d'adaptation et pas croire que parce que vous avez travaillé en visualisation mentale tous les cas de figure possibles, qu'il n'y en a pas un autre qui va sortir.
Oui, c'est vrai.
Donc, ça, déjà, c'est un point très important. Dans le cadre des JO qui arrivent, j'accompagne deux athlètes qui vont faire les Jeux Olympiques,
ouais,
à savoir Walid Kiar et Romain Dicot.
OK.
Effectivement, il n'y aura pas un blocage spécifique sur que quelques éléments, parce que dans tous les cas, il faut garder cette capacité d'adaptation, d'ouverture, de sensation, pour ne pas être simplement des robots qui ne sont pas en capacité de s'adapter.
Ouais.
On veut des gens qui soient véloces,
ouais,
mentalement agiles, pour pouvoir réagir à toutes les situations. Sur les personnes qui ne connaissent pas les adversaires, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est très important, c'est savoir se focaliser sur soi.
Oui, sur ce qu'on sait faire ou ce qu'on a travaillé à l'entraînement.
Bien sûr.
Okay.
Alors moi, ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est si on ne connaît pas les personnes, dans tous les cas, on sait très bien qu'on a des morphologies différentes en face de nous. On sait très bien qu'on a des personnes, des gabarits différents. Enfin, on a dans tous les cas des caractéristiques, gaucher, droitier,
ouais,
des gens qui lancent des mouvements d'épaule, de
ouais,
hanches, qui vont arracher, qui vont contrer. Donc, on a cette possibilité déjà de travailler en amont en visualisation sans avoir une tête précise.
D'accord, ouais.
C'est critères, on va dire,
ouais, ces types de schémas qu'on va retrouver,
voilà, ces caractéristiques technico-tactiques,
ouais,
morphologiques, et les travailler en visualisation face à quelqu'un qui n'a pas de visage en soi.
Ouais, ouais, je comprends.
Et d'ailleurs, j'ai envie de le dire parce que est-ce que ça a un intérêt vraiment de toujours personnaliser la personne qu'on a en face?
Ouais.
Je suis pas certain parce que parfois on peut y mettre de l'émotion. Et je parle pour tous les niveaux là.
Ouais, ouais, ouais.
Vous prenez demain, c'est le cas par exemple de Walid Kiar. Il va prendre un certain nombre d'athlètes, des athlètes avec des pédigrés, des athlètes avec des médailles mondiales comme lui. L'idée, c'est pas de personnifier de trop le combat, mais d'appliquer ce qu'on sait appliquer, non pas de la manière la plus froide possible, mais de la manière la plus détendue,
ouais,
relâchée, engagée. Et ça, c'est important. Donc, le but, c'est pas de prendre le curriculum vitae de l'autre, l'histoire de l'autre, tout ce qu'il y a autour, l'engouement qu'il peut y avoir autour. Mais par contre, tout simplement, de prendre des techniques technico-tactiques et d'appliquer une stratégie gagnante face à cette personne. Et que ce soit elle ou une autre, avec cette configuration, j'utilise cette stratégie et je l'applique. Voilà. Et ça, c'est important pour ne pas trop personnaliser
ouais,
le combat, mais simplement, en fait, écrire sa propre histoire, imposer son projet à l'autre, sans donner trop d'importance à la personnalité de l'autre, par exemple.
Ouais. Donc, ça veut dire qu'on peut faire une visualisation, que ce soit pour les JO ou pour son tournoi de dimanche, sans forcément penser à une personne en précis.
Complètement.
Juste, on s'imagine un combat dans
sûr
lequel on fait ce qu'on a à faire. Et une dernière question là-dessus, c'est que du coup, est-ce qu'on visualise uniquement ce qu'on a déjà travaillé et ressenti à l'entraînement, ou on pourrait imaginer aussi visualiser des trucs qu'on fait pas encore, sur lesquels on a du mal? J'y pense parce que tu as cité une judokate,
Amélie Guyur,
voilà, qui était blessée et qui du coup a visualisé son haraigoshi pendant deux mois sans le faire, et puis voilà, puis après elle a été, je crois, deux trois semaines sur le tatami, boum, c'est championnat de France, je pense,
ça,
et elle a passé haraigoshi. Donc du coup, on peut visualiser des choses qu'on n'arrive pas encore à faire dans l'optique d'améliorer sa capacité à le faire, c'est ça?
C'est exactement ça. Bon, après, très clairement, des exemples comme ça, il y en a beaucoup.
Ouais.
C'est un peu comme quand on rêve soi-même et on s'est vu faire une technique, on s'est vu faire quelque chose et ça nous paraît familier.
Ouais.
On se sent plus à l'aise. C'est ça, en vérité.
Okay.
Sauf que l'exemple qui est pris, effectivement, il y a eu un gros travail sur une technique que la tête ne faisait pas. Et elle l'a tellement répété, parce qu'elle était tellement frustrée d'être blessée qu'elle ne voulait pas perdre son temps, elle l'a tellement répété des centaines et des centaines et des centaines de fois, que oui, sur une fille qui était dans une catégorie supérieure et championne de France, elle a réussi à y mettre un hippon sur un combat décisif. Alors, ça fait une belle histoire.
Ouais.
Mais au-delà de ça, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on fait et ce qu'on fait pas.
Ouais.
Mais nerveusement parlant, musculairement parlant, il fait la différence, bien évidemment.
Ouais.
Les rotations ne se font pas complètement. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est un travail qui est important en complément du travail technique. Maintenant, il est clair que si on peut pas techniquement bouger, faire ce travail va nous permettre d'avancer nerveusement parlant, d'automatiser, de rendre familier le mouvement.
Mmh.
On va se le faire sien comme si, en fait, on l'avait toujours fait. Surtout si on le fait qualitativement, puisque si on y regarde de plus près, combien de judokas de tous les niveaux qui plus est font des uchikomi inadaptés, mal faits à l'échauffement, en train de discuter avec son copain. Je l'ai fait également, hein. C'est pas une critique, mais dans tous les cas, on se rend compte qu'on automatise quelque chose qui est mauvais.
Ouais.
Et tous les plus anciens que je connais dans le monde du judo nous rappellent toujours à l'ordre par rapport à ça. Et là, tout le monde souffle en disant. Mais non, en fait, ils ont raison.
Bah oui, c'est un temps parce perdu,
que,
sinon.
Bien sûr. Et c'est un temps perdu, c'est même pire que ça.
Ouais,
c'est une déformation.
Ouais, c'est ça. On rentre.
Il vaut mieux rien faire, à la rigueur, parce qu'on permet à notre corps de faire des demi-rotations, des positionnements de poignets, d'épaules, de hanches, qui ne sont pas, en fait, les bons. Et donc, on automatise quelque chose qui n'est, en fait, pas du tout adapté à ce qu'on veut faire.
Ouais.
Donc, du coup, nous fait perdre du temps, voire nous fait aller dans la direction contraire.
Ouais, ouais. Donc, la visualisation, ça peut aussi permettre d'aller affiner la qualité.
Complètement.
Ok, super. Et alors, je rebondis juste, tu parlais de Romain Dicot, mais j'avais pris Teddy Riner en exemple, peu importe. Un judoka qui, de l'extérieur, évidemment, je ne présume pas ce qu'elle ressent à l'intérieur, mais de l'extérieur, on a l'impression quand même que le judo, ça leur réussit pas mal, au prix de beaucoup de travail, ça c'est sans aucun doute, et qui ont de l'extérieur aussi, on a l'impression qu'ils ont un assez fort mental. Est-ce que du coup, ils sont accompagnés en prépa mentale, c'est-à-dire qu'est-ce que, même quand on se sent bien, il y a toujours, je crois que c'est, il me semble que c'est Kylian Le Bloch qui disait, je peux pas dire que ça allait mal, mais comme il a cette personnalité d'aller chercher tous les détails, d'être un peu l'obsédé du moindre détail qui peut affiner, il me semble que c'est lui qui disait, je me suis dit, la prépa mentale, je l'avais pas encore fait, même si j'avais pas de gros besoins, je me suis dit, il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. Donc ça veut dire que même si on va bien et que ça marche bien, on peut encore affiner ou aller chercher des détails dans la prépa mentale?
Alors, je dirais oui, mais pour moi, ça me paraît évident que ce soit dans la préparation mentale ou tout autre domaine.
Ouais.
Moi-même, en écrivant ce livre, c'est le fruit de 20 ans de réflexion et plus de 10 ans de pratique.
Ouais.
Mais en vérité, la méthode ne peut qu'évoluer avec le temps, avec les expériences vécues encore et encore. Donc, progresser, c'est le propre de l'homme. Je crois qu'on est sur Terre aussi pour utiliser tout ce qu'on nous a donné, pour vraiment l'utiliser, le mettre en pratique. Donc oui, si on est déjà bien, déjà, qu'est-ce que ça veut dire bien? J'espère qu'on est bien, on se sent en phase avec nous-mêmes, équilibré, très bien. La préparation mentale permet, de manière très large, parce que je disais qu'il y a des outils très divers à l'intérieur, permet de stabiliser des situations, permet de progresser, et permet aussi, en fonction des besoins du moment, de faire le point.
Mmh.
Ça, c'est important aussi. Quelqu'un qui gagne déjà n'a peut-être plus envie de gagner dans le même domaine, peut-être faire autre chose, peut-être arrêter. D'autres ont envie encore de gagner.
Mmh.
Et vouloir gagner encore et encore, progresser et encore, si c'est la motivation, c'est important de stabiliser. Je vais donner un exemple très simple pour parler de Kylian tout à l'heure. Il y a des athlètes qui, sur des classiques, sur des bases fondamentales, vont oublier certains éléments. Alors que c'est quelque chose qu'on avait travaillé au début. Tous les athlètes avec lesquels j'ai travaillé, il est important de rappeler certains fondamentaux, notamment le fameux gagnant-gagnant qui dit en gros, je dois être confiant, à savoir avoir la conviction que j'ai les moyens de pouvoir imposer mon projet.
Ouais.
Deuxièmement, d'être déterminé, c'est-à-dire d'être prêt à tout pour, quand je dis prêt à tout dans les règles de l'art, bien évidemment, dans les règles proposées, de réussir son objectif. Et après, être 100% dans le présent, 100% des qualités, bien sûr, dans l'action, qu'on soit très clair. Et également de prendre très au sérieux la personne que vous avez en face. C'est essentiel. Eh bien, rien que ça, qui paraît très simple, y compris pour un sportif de haut niveau, il peut y avoir des moments où on se dit, ça va le faire.
Ouais.
Ça devrait le faire. Ou je suis à mi-combat, C'est bon, c'est en train de passer.
Ouais, complètement.
Et c'est là qu'il y a ces petits relâchements.
Ça, c'est clair. Et je l'ai déjà vécu. Des fois, c'est une demi-seconde. Mais effectivement, le coup de « putain, c'est bon, j'ai mon wasari », en fait, c'est bon.
Et complètement. Ouais. Ou même quand on prend quelqu'un, on est dans une dynamique de victoire, on prend quelqu'un qui est moins bien classé. Alors, c'est vrai qu'on a cette confiance, cette fluidité dans le corps qui fait que ça peut passer. Mais si vous l'abordez d'une manière où vous vous sentez un peu trop supérieur, alors à la rigueur, ce n'est pas le problème d'avoir confiance. C'est le lien entre la confiance et ce qu'on produit concrètement.
Ouais,
si vous produisez 90% de ce que vous êtes, et que l'autre est, on va dire, voilà, je vais même reprendre un autre exemple, vous avez un potentiel de 100%, mais vous utilisez que 90%.
Ouais.
La personne qui est en face de vous, elle a 90% de potentiel, mais elle utilise les 100% des 90%.
Ouais.
Pour moi, elle sera meilleure l'autre.
Ouais, ouais.
Parce que le produit complet est fluide, alors que vous, eh bien, vous en avez gardé un petit peu sous la semelle, vous avez géré, et si la différence de niveau n'est pas si grande, vous allez vous mettre en difficulté. Et donc l'idée, c'est d'automatiser par routine de performance finalement des manières de combattre, des manières d'appréhender les tâches, les combattants, la compétition, de manière unique. Quand je dis unique, c'est toujours confiant, déterminé, 100% dans le présent, 100% des qualités dans l'action et prendre au sérieux
la situation,
le challenge que j'ai
en face. Ouais.
Voilà. Et ça, eh bien, quels que soient les niveaux, on se rend compte que de temps en temps, eh bien, on n'y est pas tout à fait.
Ouais.
Et ça, l'athlète ne s'en rend pas compte parce que ce n'est pas noir ou blanc.
Oui, ouais, complètement.
C'est des petits détails qui font que vous allez voir quelqu'un d'un coup va s'échauffer davantage, va faire un échauffement très, très, très engagé parce que la personne en face, là, est différente. Mais ça veut déjà dire que vous modifiez votre manière d'appréhender les combats.
Ah, ouais.
Donc, c'est une question qui est importante. Pourquoi on change? Pourquoi tu ne le fais pas tout le temps alors? C'est-à-dire que les autres, tu ne les prends pas au sérieux. Vous voyez?
Ah, ouais.
Donc, il y a toute cette réflexion où il faut être vigilant. Parfois, ça ne veut rien dire. Mais souvent, ça veut dire quelque chose. Et en tous les cas, il faut y être attentif. D'où, dans le fait d'accompagner en préparation mentale, de questionner beaucoup pour comprendre ce qu'il y a derrière le choix, les postures, l'état d'esprit d'un individu et gratter un petit peu pour essayer de déceler ces petits détails qui font la grande différence à la fin.
Ah oui, carrément. Mais du coup, si je prends toujours l'exemple du judo, c'est-à-dire que toi, quand tu travailles avec des judokas, tu vas regarder tous leurs combats. Enfin, bon, en plus, tu es judoka, donc tu as un œil aussi, mais... Je veux dire, tu as besoin de voir où tu te bases uniquement sur ce que l'athlète va te dire dans son ressenti ou dans ses préoccupations. Ou toi, tu vas regarder aussi l'échauffement, les combats et tout pour avoir ce regard et dire, est-ce que là, il n'y aurait pas un truc?
Alors, il m'arrive de regarder, mais principalement, ça se fait dans l'échange.
Sur ce que l'athlète va te reporter, d'accord.
Il m'arrive d'aller les voir en compétition, mais très clairement, quand on est en France, je n'ai pas forcément de demande d'accompagnement sur le terrain, parce que mon but, c'est que les athlètes soient autonomes. Ils ont un encadrement de qualité déjà avec les entraîneurs qui jouent ce rôle centralisateur, déjà. Donc, il suffit qu'ils aient tous les éléments pour que ça puisse avancer tranquillement. Et donc, je ne regarde pas forcément. Par contre, s'il y a un sujet, en général, ça ressort parce que je questionne beaucoup.
D'accord. Oui, d'ailleurs, on le voit dans... Il y a quelques exemples où, je ne sais plus si c'était... Emilie Andéol, et on voit qu'en fait, les athlètes, dans tes exemples, ils utilisent tout ce qu'ils ont fait en amont et les outils au moment, à un moment, Emilie perd la demi un championnat du monde. Et donc, c'est l'effondrement de tout ce qu'elle a imaginé. Et en fait, elle, par tout le travail qui a été fait en amont, elle arrive à reprendre un outil pour se remobiliser quand même. Donc, on voit qu'il n'y a pas forcément besoin de la présence sur place. Mais OK, donc ça veut quand même dire que l'athlète, il est capable de dire « Ouais, là, j'ai l'impression que je me suis relâchée, par exemple, là-dessus, ou j'ai été trop confiant. » Et c'est toi, tu vas questionner pour aller fouiller là-dessus, quoi.
Voilà. C'est plutôt comme ça. Après, sur l'accompagnement sur le jour J, honnêtement, ça pourrait se faire, avoir le préparateur mental à disposition. Je me rappelle, à l'époque, j'avais travaillé avec Champigny, avec l'équipe de Champigny. C'était un championnat de France par équipe. Les entraîneurs travaillaient vraiment en mode équipe.
OK.
Donc, il y avait l'entraîneur qui me disait même de faire un petit mot au début de la compétition, après leur discours à eux, ce qui permettait de compléter, d'apporter des éléments. Et donc, ça dépend aussi du management qui est mis en place. Mais à vrai dire, le travail est fait en amont. Les personnes sont dotées d'outils, elles les ont répétés et en fonction de la maturité, les outils sont utilisés. J'ai jamais vu des athlètes en général complètement perdus quand le travail était bien fait en amont, qu'on a pris suffisamment de temps pour le faire.
D'accord. Et du coup, toi concrètement, ça veut dire que tu travailles pour les athlètes qui viennent te chercher à titre individuel, pour des clubs qui te demandent pour leurs athlètes? Comment ça se passe en fait? C'est toi qui... Parce qu'il faut qu'il y ait un bon feeling aussi avec la personne,
bien sûr,
j'imagine.
Bien sûr.
Là, aujourd'hui, tu travailles comment?
Alors, déjà, j'ai très peu d'athlètes.
Ok.
Et c'est volontaire.
Ouais.
Parce que je pense que pour accompagner des personnes, j'ai rien contre les boulangers, mais je suis pas un boulanger, je vends pas des pains au chocolat. C'est pour ça que j'ai fait le livre, en vérité. Parce que, bon, quand je m'engage dans un projet avec quelqu'un, bon, par exemple, Romain Dico, ça fait pas très longtemps, ça fait une année, enfin, un peu moins d'une année. Walid Kiar, ça fait 7 ans.
Ouais. Vous définissez un temps au début ou c'est un peu au
non,
feeling?
Pas du tout.
Non,
pas du tout. Non, disons qu'on fait des... Comment je travaille, moi, c'est plutôt des contrats sur 6 mois.
Ouais.
Et après, on continue, on réactualise. Mais l'idée, en gros, c'est pas de... C'est vraiment, on a un objectif, on y va, et au fil de l'eau, on voit comment ça se passe, et on avance. Mon but à moi, c'est pas d'avoir des tonnes d'athlètes, parce que j'ai besoin aussi de tomber amoureux du projet,
ouais,
de le sentir.
D'être investi dans le...
Voilà, et également, comme je le disais en préambule, je suis dirigeant d'un organisme de formation,
ouais.
Donc j'ai aussi... pas mal d'occupations, et mon travail, je veux bien le faire. Rien que là, avec le nombre d'athlètes que j'ai, qui est très petit, c'est déjà bien chargé.
Ouais.
Donc, moi, ça me suffit. Par contre, si j'ai sorti ce livre, c'est pour plusieurs raisons, et c'est là que je vais rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est que j'ai tout fait pour que ce travail en autonomie de préparation mentale puisse être réellement fait.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est assez marrant, parce que j'ai un des commentaires qui est revenu à mes oreilles. Il y en a eu plusieurs dans ce sens. On dirait que, pour ceux qui me connaissent notamment, on dirait que t'es là, que
ah
t'es
ouais.
à côté. Quand
ah
tu...
ouais, c'est sympa.
Parce qu'on te reconnaît.
Okay.
Donc, ça fait plaisir, très clairement. Mais au-delà de ça, au-delà du plaisir, tout est fait pour que l'athlète travaille en toute autonomie.
Ouais.
Et donc, bien évidemment, les gens peuvent avoir, j'ai déjà des appels dans tous les cas, avec pour des compléments d'information,
ouais,
etc. Et j'y réponds avec grand plaisir parce que c'est important. Moi, je suis ravi aussi que les gens s'impliquent à ce point pour atteindre leur objectif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le livre est fait pour qu'on puisse avancer seul. Ouais. Maintenant, à la question, est-ce que c'est pas mieux si on est accompagné? Je dirais oui.
Ouais, parce que c'est vrai que pour être challengé,
voilà.
Pour
mieux,
ça fait effet de miroir, quoi.
Voilà. C'est mieux parce que c'est pas parce qu'on a intégré des outils que on va avoir suffisamment de sérieux parfois pour les répéter dans le temps.
Et carrément.
Parce que ce qui se passe, et je l'ai vécu en tant que préparateur mental, hein. Vous avez des gens qui arrivent très motivés. On fait 2 séances, ils se sentent habités par une mission et complètement investis et engagés. Mais sauf qu'en fait, on avait à peine construit les fondations, ou on va dire 1 ou 2 murs.
Ouais.
Et après, ils reviennent 6 mois après, ils ne comprennent pas pourquoi il pleut dans la maison. Mais on n'a pas construit les autres murs ni le toit.
Ouais.
Et c'est ça le problème. Donc, dans le livre, en tous les cas, ce qui est proposé, c'est la maison complète avec le toit étanche. Maintenant, effectivement, la commission de sécurité, il faut qu'elle passe.
Ouais,
c'est toujours bien si c'est fait aussi. Après, ce qui est intéressant, J'ai un projet hein, par rapport à l'accompagnement, parce que comme je peux pas me démultiplier, c'est de travailler sous forme de vidéos aussi, qui permettent de rappeler et qui est un complément du livre et qui permettrait d'avoir une formation accompagnée en vidéo qui arrivera prochainement. Voilà.
Mais c'est vrai que moi, je me suis prêtée au jeu là de... J'ai pas tout fait, je fais une moitié du livre perso, quoi, pour tester les exercices. Moi, voilà, c'est vrai que je ressens cette limite. Alors, d'un côté, je trouve ça super parce qu'on peut vraiment faire des choses concrètes. Moi, j'ai découvert des... Enfin, en faisant, c'est toujours pareil. Quand on prend du temps pour se poser avec soi-même, déjà, et en plus avec un fil rouge, enfin, des exercices concrets, on découvre vraiment des choses par soi-même. Après, c'est vrai que quand on est tout seul, comme on n'est pas challengé, etc., par l'extérieur, disons qu'on pourrait aller plus loin encore, je pense. Dans un accompagnement. Mais ce que je m'étais dit aussi, c'est que ça me donnait bien envie de tester, c'était qu'on peut aussi imaginer d'être 2-3 judokas ou autres, mais judokas motivés, et en fait de se faire ça aussi entre nous, c'est-à-dire de se faire nos trucs tout seul, puis hop, d'avoir une petite séance de partage à 2-3 copains sur « ah ben moi je me suis mis ça », que ce soit sur l'objectif, la maxime, parce que d'entendre les autres, ça aide beaucoup. D'avoir le regard extérieur, ça aide, mais ton objectif, dans le smart, il manque peut-être le E. Ou... Enfin voilà, je pense qu'il peut y avoir des... Le partage peut bien avancer, faire avancer aussi.
Après, j'ai une idée là que je pense que je vais envoyer ça assez prochainement. C'est-à-dire que pour que ça soit d'une efficacité redoutable, c'est quand même le but.
Ouais.
Je le dis dès le début, hein, mon but, c'est d'une manière générale, au-delà du judo, c'est de construire, enfin, du moins dans tous les cas, de contribuer à construire des héros du quotidien, ouais. des athlètes engagés, des athlètes de caractère, des élites de caractère. Même c'est pour ça que je dis que je fais au-delà du sport ou du judo, dans la politique et dans l'entreprise. L'idée est d'éduquer d'une certaine manière. Pour rappel, éduquer, éducare, du latin qui veut dire faire ressortir le meilleur ouais. de soi. Et l'idée, c'est de vraiment travailler dans la globalité. C'est-à-dire que j'ai une volonté, mon document est quasiment prêt, je vais l'envoyer dans les différents pôles de divers sports, hein, pas que le judo d'ailleurs, c'est de travailler auprès des jeunes sous une forme de conférence, on va dire, pour donner déjà les éléments, ouais. pour sensibiliser, pour qu'on puisse comprendre l'intérêt réellement et capter quelques outils. Et également, ce que je fais déjà, notamment avec la Ligue Île-de-France, la Ligue Normandie, la Ligue PACA, travailler à former, initier les entraîneurs de pôles et de clubs qui ont des athlètes engagés ouais. en compétition à connaître eh bien, un certain nombre d'outils.
Ouais.
Et à la suite de tout ceci, remettre le livre aux athlètes et aux entraîneurs qui vont travailler dans une forme de culture commune, avec des exercices communs, et qui permettra finalement de pouvoir travailler dans la même direction et de manière structurée.
Ouais.
Parce qu'on parlait de structure au début, sans structure, ça me paraît compliqué.
Ouais, ouais.
Surtout que les entraîneurs ne sont pas des préparateurs mentaux.
Ouais.
Souvent d'ailleurs dans les pôles, c'est ça qui est bien, c'est que si on arrive à faire ça, il y a déjà dans certains pôles des préparateurs
oui,
mentaux, et c'est très bien.
Ouais, j'entends dire qu'il y a bien pas sûr. Mal de jeunes qui peuvent avoir accès. Ouais.
Et c'est très bien. Et moi d'ailleurs, je suis même très ouvert, c'est ce qui se fait déjà, hein, mais à travailler avec d'autres préparateurs mentaux qui vont, en plus de leur approche, pouvoir s'appuyer sur ce modèle de performance, ce qui enrichit tout le monde.
Ouais, tout à fait.
Il n'y a pas de concurrence en soi dans ce cadre-là, puisque moi, je ne cherche pas à accompagner les personnes dans les pôles.
Ouais.
Moi, je souhaite, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, démocratiser au maximum mon expérience personnelle qui a montré un certain nombre de conséquences ouais. et de résultats et d'enrichir le monde de la préparation mentale, puisque la préparation mentale a fait d'une certaine façon sa révolution.
Ouais.
Et aujourd'hui, tout le monde en parle. Et donc, je voulais faire partie de cette dynamique pour rendre, on va dire, la démocratiser, vulgariser la ouais. thématique, mais en même temps, permettre aux gens vraiment de l'utiliser avec des exercices pratico-pratiques, puisque comme on le disait avant l'enregistrement, ce livre est vraiment un livre de terrain.
Ouais.
C'est-à-dire que chaque chapitre est constitué de la manière suivante, une explication technique, un outil illustré concret, un outil vierge et l'anecdote,
ouais.
qui permet vraiment de se dire... Ce n'est pas des incantations, le préparateur mental reprend des phrases de je ne sais où. Non, non, ce sont des techniques appliquées sur le terrain qui ont fait leurs preuves. Après, je le répète, ce n'est pas des recettes magiques.
Non, faut bosser, ouais.
Il faut bosser, la formule magique temps, n'existe ouais. pas. Hein. Dans tous les cas, il faut beaucoup de travail. Mais ce travail, de manière structurée, permet d'avoir une motivation rationnelle et d'avancer en direction de son objectif.
Ouais. Et du coup, je veux vraiment te dire merci et t'es encore plus bienvenue à Secrets du Doka, parce que là où on a un gros point commun, et je me dis que c'est vraiment, moi, c'est, j'œuvre que pour ça quasiment, c'est que du coup, c'est dans cette idée de faire évoluer la culture en général. Donc toi, c'est la culture de la préparation, de le faire rentrer dans les mentalités, que ça se fait, qu'il y a des outils, qu'il y a des structures pour ça, et de le faire de plus en plus connaître, et de mettre à disposition, comme tu l'as très bien dit, de démocratiser. Ben voilà, toi, t'accompagnes ceux au plus haut niveau, et on a la chance de pouvoir avoir la façon dont tu le fais pour n'importe qui. Et moi, c'est vraiment, toi, la dernière interview avec Kylian, ben, j'ai eu cette chance que Kylian, qui accompagne, pareil, des athlètes olympiens au plus haut niveau, ben, il a donné ses outils, il a dit comment il travaillait, j'ai pu lui poser plein de questions. Et moi, c'est un peu mon rêve, c'est de dire, bah, OK, il y a ceux de l'INSEP, mais en fait, on est plein de judokas passionnés. On rêve pas forcément des JO, mais ça ne veut pas dire qu'on rêve pas d'avoir un très bon niveau ou de s'éclater dans une compète dans le coin et de marquer des beaux hippons. Et je me dis, si on peut avoir les meilleurs outils qui existent en France, bah, ça serait cool. Et donc, c'est ce que tu fais. Donc, merci beaucoup pour ça.
Ouais, c'est avec plaisir. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai cité plusieurs noms parce que ça parle à certains dans le monde du judo, mais je n'ai pas que accompagné des personnes qui faisaient du haut niveau et quelqu'un qui a envie d'améliorer son uchimata, son eponsoenage, son moroté. C'est un travail aussi excitant.
Ouais.
Aussi excitant parce que la sensation de mettre une technique, on a passé deux ans à bloquer, ça bloque, on n'arrive pas à le faire forcément, qu'on est frustré parce que le judo en soi, c'est ça qui est très important. C'est qu'il n'y a pas que la perf. pour la perf.
Complètement.
Beaucoup d'ados arrêtent le judo aujourd'hui parce qu'ils ont trop misé sur le physique ou trop sur l'engagement, ouais, même mental, sans les outils techniques.
Ouais.
Et donc, on a des gens qui sont frustrés parce que le judo, c'est dur, c'est ingrat aussi parfois, et vous vous retrouvez à arrêter parce que vous vous sentez un manque de ressources techniques et que simplement le physique et le travail d'engagement bien usent au bout d'un moment, et s'il n'y a pas de résultat, ben, on est dans un cul-de-sac. Donc, le travail pour le plaisir de pratiquer techniquement, que ce soit pour la haute compétition ou pour en fait s'éclater à ses entraînements ou à un championnat qui n'est pas forcément de haut niveau, c'est la même chose.
Ouais.
C'est la même chose. Et je le répète, hein, moi, je travaille autant dans le judo que dans les autres sports, mais également dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui a l'objectif de se sentir bien dans ses baskets. Alors, ce n'est pas vraiment un objectif, parce que ça reste un but, hein, c'est assez large.
Ouais.
Mais quelqu'un qui, voilà, qui a envie de se sentir bien. Quelqu'un qui a envie d'obtenir un poste.
Ouais, c'est ça, ou de pouvoir animer ses réunions de façon pertinente.
Exactement.
Et sans stress, et parce qu'il sent qu'il a des choses à faire, mais qui, du coup... Il est bloqué, il voit que ses réunions sont mal animées parce que juste il est stressé, par exemple.
Complètement.
Ça peut être un objectif précis, ouais.
Et des maximes qui seront trouvées par rapport à ça, ça me fait penser, par exemple, il y avait une jeune fille qui voulait passer un concours de commissaire-priseur. Elle n'a rien à voir avec le judo. Sauf que la méthode appliquée, elle, elle arrivait avec sa motivation, etc. Et elle arrivait à une maxime qui était « je professionnalise mes réponses et j'impacte le jury ». C'était
génial,
sa maxime.
Ouais.
Oui, j'avais un retraité quand je parlais de la...
préparation,
de la préparation mentale à la retraite, lui, c'était je rassemble ma tribu et j'aide les plus nécessiteux.
Ouais.
Donc, c'est assez large. J'en ai une, moi, pour les amis, je crée du souvenir.
Ouais.
Pour être toujours force de proposition. Même une femme qui voulait allaiter, vous voyez, donc c'est pour dire que ça peut être vraiment large. Quel est l'objectif? Ben, allaiter, elle, c'était je crée du lien et je donne le meilleur.
Ouais.
Vous voyez, donc. C'est quelque chose qui est utilisable dans tous les domaines. Et si je reviens au judo, eh bien, en fonction de ce qu'on a envie de produire dans le monde du judo, eh bien, on peut avoir des objectifs très 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 ciblés, comportementaux ou simplement de sensations intérieures, et ça marche de la même façon.
Bon, c'est top. Est-ce qu'on a tout dit, Laurent? Donc, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. T'es plus quoi, toi, si on veut te suivre?
On peut me suivre sur LinkedIn,
ouais.
Sur Facebook. Bon, actuellement, il y a un certain nombre de publications, même si je ne suis pas le plus adepte.
Ouais.
Mais je suis joignable. Donc, le livre, déjà, on peut se le procurer sur laurentmézeguet.fr.
D'accord.
On peut se le procurer sur d'autres plateformes aussi. Mais,
ou en librairie, ou à la FNAC ou quoi, il y est?
Alors, il n'y est pas à la FNAC.
Ah, d'accord, ok. Donc, c'est qu'en ligne.
C'est une auto-édition, comme okay. Vous pouvez le voir. Eclevia, c'est... Donc, nous, on s'est transformé... Ouais. En éditeur, puisque Eclevia, c'est l'organisme de formation dont je parlais tout à l'heure,
ouais.
Et qui est devenu éditeur également, ce qui nous permet de travailler à la production de ce livre. On a fait l'écriture, et bien
super.
On commercialise également.
Mais je mettrai le lien, de toute façon, dans toutes les descriptions.
Et sinon, mis à part ça, oui, on peut me contacter s'il y a des questions sur le sujet. Très clairement, aujourd'hui, nous... on accompagne, là, c'est ce qu'on va faire, on va faire une campagne de formation, notamment dans les ligues, pour apporter aux entraîneurs, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de billes supplémentaires sur le sujet, dans les pôles également. Donc après, on peut me contacter directement s'il y a des questions précises, si on a besoin de parler préparation mentale. C'est avec grand plaisir.
Super.
Je suis ouvert, bien évidemment.
Eh bien, écoute, mille merci. On va vivre ça, faire les exercices. Je pense que ça va pas mal bavarder dans les commentaires aussi de l'interview. Merci beaucoup, beaucoup de ton temps.
Parce qu'on a
un peu du temps chargé, alors c'est vraiment sympa d'être venu.
Avec grand plaisir. Merci à toi.
Et puis à bientôt.
Merci.
Merci de votre écoute. Si vous avez envie de réagir, donner votre avis ou même peut-être poser des questions pour le prochain enregistrement, tout se passe sur le site secretdejudoka.com où vous pouvez d'ailleurs commenter tous les épisodes qui sont retranscrits sous forme d'articles dans la section blog. Alors n'hésitez pas à aller jeter un œil et avec plaisir pour vous y retrouver dans les commentaires. D'ici là, pensez à vous abonner à ce podcast et à mettre 5 étoiles, s'il vous plaît. Ce serait vraiment top parce que c'est comme ça que le podcast peut remonter dans l'algorithme et être proposé à d'autres judokas. Alors, soyons dans le partage, merci pour eux. Et puis, merci un peu beaucoup pour moi parce que c'est toujours encourageant de savoir qu'il y a des satisfaits au bout du fil. Sur ce, bonne progression à vous et puis à bientôt sur le site YouTube, Facebook, Instagram. Je suis un peu partout, mais surtout, j'espère, à bientôt sur le tatami. Bye.